Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, alors que Jules II, lassé de l'incompétence de l'architecte Bramante, a confié à son protégé la conception de l'échafaudage nécessaire aux travaux. Seconde partie, la fureur de peindre. Michel-Ange commence par ce qu'il sait faire, en dessinant toutes les esquisses sur carton, à la mine de plomb, de couleur noire, ou à la sanguine, un pigment de couleur rouge terre. Le plafond de la Sixtine ne comporte aucun cloisonnement. C'est une surface d'un seul tenant, lisse, sans relief. Il va falloir la structurer pour distribuer les figures de manière équilibrée. Les cartons de Michel-Ange, comprenez ses dessins préparatoires, sont révélateurs d'une orientation de la pensée qui tranche avec celle de ses prédécesseurs. Jusqu'à la fin du XVe siècle, la décoration d'un plafond d'église privilégie les motifs géométriques de toute nature. Ils investissent presque tout l'espace disponible, laissant de rares espaces pour l'insertion de personnages bibliques. Depuis la tentative avortée du mausolée de Jules II, Michel-Ange a acquis la conviction que les motifs de décoration ne doivent pas investir tout l'espace, mais qu'ils doivent entretenir une sorte de dialogue équitable avec les représentations de l'homme ou de la nature. Ce souci d'équilibre est flagrant sur les cartons du peintre. Les esquisses de formes humaines y sont systématiquement associées à un motif géométrique, les deux se complétant, s'harmonisant ou se contredisant. Michel-Ange présente ses cartons à Jules II, qui fait aussitôt estimer les travaux et attribue la somme faramineuse pour l'époque de 15 000 ducats pour la réalisation de l'ensemble des peintures. Vient le temps de la réalisation des peintures proprement dites. Michel-Ange, qui porte toujours sur lui-même un regard des plus humbles, ne se sent pas de taille à entreprendre seul les premières fresques. D'autant que le procédé utilisé n'offre aucune possibilité de corriger d'éventuelles erreurs. À la différence de la peinture qu'on applique par couches et que l'on peut amender, corriger, reprendre à loisir, la fresque, elle, consiste en l'application en une fois, une seule, d'un amalgame de chaux et de pigments. La pose est unique et définitive. Michel-Ange fait donc venir de Florence des artisans spécialistes de cette technique.
Peu content de leur exécution et se trouvant finalement suffisamment compétent, étant d'ailleurs de ceux qui devinent ce qu'ils veulent apprendre, il s'aperçut que leur leçon était inutile. Après les avoir congédiés, il jeta à bas toute leur besogne et se mit à la recommencer.
Il ne congédie pas seulement les spécialistes qu'il a fait venir à grands frais, tout le monde dehors. Pendant de longs mois, Michel-Ange reste seul avec son ouvrage. Il n'est fait mention que d'une seule visite, hors celle du pape en personne.
Il s'était aperçu qu'en quelques endroits, surtout ceux du nord, la fresque contractait un peu de moisissure, ce qui le désespérait. Mais l'architecte Julien de San Gallo, qu'il consulta, lui apprit que c'était dû à la nature de la chaux de Rome, qui, faite avec de la pierre appelée travertino, séchait lentement et produisait cet effet, tandis que l'enduit est humide, mais que le mal disparaîtrait à mesure du séchage.
Pour permettre au pape de suivre l'avancée des travaux, Michel-Ange fait construire un petit escalier à vis. La chapelle n'est pas peinte à moitié que Jules II, désireux de présenter les premiers résultats au public, fait enlever une partie des échafaudages. Tout Rome se presse à la Sixtine. L'effet produit par les premières fresques est à l'image de leur auteur, passionné. Jamais on n'avait vu des figures humaines aussi imposante sur une voûte d'église. La représentation des rois d'Israël, des prophètes et prophétesses, consacre une vision du corps jusqu'alors inconnue. On se demande comment le corps humain peut apparaître dans la tension de tous ses muscles, dans un effort qui semble engager toutes les parties du corps en même temps. On ignore à l'époque que Michel-Ange a fait ses premières études de corps humain sur des victimes du tétanos. Parvenu à la moitié du travail accompli, Michel-Ange, une fois encore, propose au pape de passer la main et glisse le nom de Raphaël. C'est un nom catégorique. Jules II sermonne vertement Michel-Ange pour avoir émis une telle proposition. L'artiste va donc poursuivre seul l'extraordinaire chantier, interdisant même qu'on broie les pigments de couleur à sa place. Reste que Jules II, voyant sa fin approcher, s'impatiente de plus en plus. Il ponctue ses visites, souvent impromptues, de remarques déplaisantes. Pourquoi, par exemple, les vêtements des prophètes sont-ils si ternes? Ne serait-il pas mieux d'appliquer quelques dorures à leur toge?
Saint-Père, les hommes que j'ai peints là-haut ne portaient point d'or dans leur temps. Ce ne furent point des riches, mais de saints personnages qui méprisaient les richesses.
Sur ordre du pape, Michel-Ange rageur est obligé de mettre un terme à ses ajouts qui n'en finissaient pas. Le jour de la messe d'inauguration, 1er novembre 1512, il ne voit de son travail que les défauts. C'est un motif qui manque par-ci, un détail de paysage qui manque par-là. Pourtant, il a dépassé de loin le projet initial, qui prévoyait la répartition de 12 personnages, les 12 apôtres, sur l'ensemble de la voûte. Au moment de l'inauguration, le public ébahi découvre plus de 300 représentations d'hommes et de femmes quand il en attendait 30 fois moins. Ayant achevé la Sixtine, Michel-Ange demande au pape l'autorisation de continuer le fameux mausolée qui lui a déjà donné tant de mal. Hélas, Jules II, qui confusément devait sentir que la chapelle Sixtine avait comblé toutes ses attentes terrestres, meurt en février 1513. En cette même année 1513, Jean de Médicis succède à Jules II sous le nom de Léon X. Un bien curieux pape, qui va s'appliquer à vider méticuleusement les caisses du Vatican pour satisfaire sa soif de construction et d'acquisitions en tout genre. Son pontificat est marqué par une succession de négligences qui vont contribuer à susciter l'avènement du protestantisme en Europe. Ses journées sont rythmées par d'interminables festins. Le jour de son élection, il fait recouvrir de peinture d'or un jeune homme chargé de rester à ses côtés tout le temps de la fête. Le pauvre garçon meurt peu après, intoxiqué. Sitôt en place, Léon X fait venir Michel-Ange à Florence. Il veut prolonger les fastes de son prédécesseur. Le domaine pontifical doit être enrichi, notamment de statues. Léon X, qui aime l'Antiquité grecque, demande donc à Michel-Ange une série de sculptures. Pour qu'elles prennent un air, une patine antique, l'artiste les enterre quelques mois. Distrait de nature, le pape est brouillon dans ses exigences. Que Michel-Ange lui commande une certaine variété de marbre, et il en fait apporter une autre, impropre à la sculpture. Bientôt, il marque sa préférence pour Raphaël. Ce dernier saura remercier son bienfaiteur en faisant de lui un portrait célèbre conservé à la Galerie des Offices à Florence. Il montre un visage empâté, sans éclat. Comment reconnaître dans cette face informe le souverain pontife supposé conduire l'Église universelle? Le regard est hébété comme hagard. Ses riches vêtements semblent peser de tout leur poids sur son corps affaissé et adipeux. Sa main, molle et dodue, tient lascivement la loupe censée l'aider à lire la Bible posée sur la table. La pourpre, brocardée d'argent, a l'air d'une parodie. et le chapeau pontifical dont il est coiffé comme d'une cloche achève de ridiculiser le pontife et la charge apostolique tout entière. Aux 9 ans de pontificat de ce pape correspond une période de stérilité pour Michel-Ange. Le pontife est pour l'artiste ce que l'eau est au feu. Mais Michel-Ange, véritable force de la nature, est fait pour survivre à plusieurs pontificats. Ainsi, il faut attendre le pontificat de Paul III, après ceux d'Adrien VI et de Clément VII, pour qu'il soit enfin rappelé à la chapelle Sixtine pour peindre un monumental jugement dernier sur la face interne de l'entrée. Nous sommes alors en 1534. Michel-Ange a presque 60 ans. Les années de créativité, les tracasseries avec les autorités pontificales ont accentué en lui les dispositions irascibles, colériques, qui le caractérisaient déjà dans sa jeunesse. Jusqu'en 1541, il va s'attacher à cette fresque immense qui résume à la fois le dogme chrétien et les convictions personnelles de l'artiste. Outre le Christ, qui surplombe, impérial, le flot des élus montant au ciel et celui des damnés tombant en cataracte dans les enfers, deux figures évoquent les dispositions personnelles de Michel-Ange. C'est d'abord Minos, le juge des enfers, à qui il a donné les traits du pape Jules II, une vengeance posthume en même temps qu'une manière d'immortaliser son ancien mécène qui ne rêvait que de gloire terrestre. À côté de Jules II, Michel-Ange s'est représenté lui-même en écorché. Un écorché, c'est un corps dépouillé de sa peau. Dans l'ensemble de la composition, il n'apparaît donc ni sous les traits des élus, ni sous ceux des réprouvés. Sans doute a-t-il cette conscience aiguë de sa singularité. Apparemment revenu dans la grâce du pape, il n'en a pas pour autant terminé avec les tracasseries. Paul IV, successeur de Paul III, se scandalise de la nudité des figures dessinées au plafond de la Sixtine. Il demande à l'artiste de les voiler.
Que le pape ne s'inquiète pas tant de corriger les peintures, ce qui peut se faire aisément, mais un peu plus de réformer les hommes, ce qui est beaucoup moins facile.
C'est un autre peintre, Daniele da Volterra, qui est chargé de jeter un voile pudique sur les parties intimes des peintures incriminées. Le malheureux accédera à la postérité sous le nom de Il Braghettone, le faiseur de braguettes. La nudité des corps peints par Michel-Ange a suscité de nombreuses hypothèses. L'artiste a en effet une singulière manière de viriliser les corps de femmes et réciproquement de féminiser les corps d'hommes. De nombreux ignudi nus, qui agrémentent les groupes peints de la Sixtine, expriment une étonnante androgynie. Les muscles sont puissants, mais les postures lascives. Michel-Ange, être secret, peu bavard, n'a jamais rien laissé entrevoir de sa vie sentimentale. Selon ses disciples, il était la piété et la chasteté même. Dans cette ambiguïté de la représentation des corps, il faut voir une nostalgie des origines et une conception de l'androgynie comme un état paradisiaque d'avant la chute. Avant d'être chassé du paradis, l'être humain était à la fois homme et femme. Michel-Ange a 67 ans lorsque la chapelle est à nouveau présentée au public. Appelé par le pape pour procéder à des vérifications importantes sur la basilique Saint-Pierre de Rome, il entreprend, à 70 ans, de corriger les erreurs grossières de Bramante. Le dôme en particulier doit être allégé, ce qu'il fait avec virtuosité. Considéré par tous comme un sage et un prophète, il passe ses dernières années à conseiller ses pairs et ses propres disciples. Le 18 février 1564, Michel-Ange s'éteint. Son corps, selon sa volonté, est transféré à la basilique Santa Croce de Florence. C'est là que l'on peut aller se recueillir sur l'un des plus grands et des plus énigmatiques génies de la Renaissance. C'est la fin de ce double épisode consacré à Michel-Ange et la chapelle Sixtine. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.